Voix enchantée.
Barry Jenkins, qui est un scénariste et réalisateur américain.
Léonie Pernet.
Booba. Je voudrais dire sans rien y ajouter. Je suis.
Une émission de Louisa Léo, une fois par mois à 18h sur Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Voix enchantée, l'émission qui dresse le portrait radio d'un ou une invitée à travers ses goûts artistiques. Au programme, comme chaque mois, on va écouter le choix d'artiste de notre invité, son coup de cœur musical, un texte personnel, son œuvre phare et une bribe de phrase entendue dans son entourage. On est ensemble pour une vingtaine de minutes, aujourd'hui avec Antoine. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots, ce que tu fais dans la vie, tes passions, tes hobbies ?
Je m'appelle Antoine. Antoine Millet, j'ai 27 ans, je suis ingénieur en intelligence artificielle pour une ONG qui aide les fermiers dans les zones arides. À côté, j'ai un podcast qui s'appelle La Table d'Icar. Et on interview des personnes qui font des thèses, de la recherche dans le monde des sciences, de la technologie. Et aussi à côté, je suis musicien, donc je fais... des sortes de performances improvisées de musique loupée. Donc, c'est semi-électronique, semi-instrumental, je dirais. Donc, tu as de la guitare, du piano, des synthés, des drum machines, etc. Et voilà.
Est-ce que tu as un nom de scène ?
Ouais, mon nom de scène... du coup, j'avais sorti un album où je m'appelais Toi Nous. Donc ça, c'était mon nom de scène, on va dire, perso. Mais maintenant, on a un groupe et on s'appelle Dalat Hotel. Voilà.
Trop bien, ben on ira écouter et tout de suite on passe à ton choix d'artiste. Antoine, je t'ai demandé de nous parler d'un artiste que tu aimes particulièrement, qui te touche. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est ?
Ouais, donc c'est George Drexler, c'est un Uruguayen. Et c'est un artiste qui est assez vieux, je crois qu'il doit avoir dans peut-être la cinquantaine ou un truc comme ça. Et j'aime beaucoup cet artiste parce que, bon, mis à part sa musique que je trouve super cool et très, très variée, il a beaucoup évolué au fil des années. Ce que j'aime beaucoup dans sa particularité, c'est qu'avant il était docteur. Et ça me touche vachement, j'adore les parcours un peu varié dans des trucs qui n'ont rien à voir. Genre, par exemple, Brian May, par exemple, je ne sais pas si tu connais, le guitariste de Queen, il a un peu le même profil. C'est un mec qui a fait ses études d'astrophysique, tu vois, un truc ultra technique. Et puis finalement, il est devenu guitariste de Queen, donc c'est un tout autre truc. Et après ça, il est revenu à son premier truc, à ses études d'astrophysique. Il a fait une thèse alors qu'il avait 55 ans. Et George Drexler, du coup, il a un peu le même type de profil. Il a été docteur et là, maintenant, il fait de la musique. Et je sais pas, je résonne pas mal avec ce type de personne.
Est-ce que ça t'inspire aussi par rapport à toi, ce que tu fais en ce moment ?
Ouais, totalement. Ouais. Bah, du coup, moi, c'est pas des trucs qui sont binaires. Donc, j'ai l'impression que eux, leur vie, ça a été d'abord, je fais docteur ou astrophysicien, ou ce que tu veux. Et après, je fais de la musique. Moi, j'essaye un peu de balancer les deux. Et c'est pas forcément facile, mais on s'accroche.
Et est-ce que tu dirais que cet artiste, il t'accompagne au quotidien ? Tu l'écoutes beaucoup ? Ou c'est plutôt son profil atypique qui te passionne ? Ou vraiment, c'est aussi sa musique et qui t'accompagne ?
Ouais. Non, je l'écoute. Enfin, je regardais... Parce que t'as dit qu'on allait parler d'artistes, etc. Donc, j'ai regardé un peu mon top 10 Deezer. Et ouais, il doit apparaître 2-3 fois. Donc ouais, je l'écoute beaucoup.
Et qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'artiste, tu l'aimes bien dans sa musique ? Parce qu'il a une voix très douce, j'ai l'impression aussi qu'il raconte des histoires assez simples, des sensations.
Ouais, bah déjà le fait qu'il parle en espagnol, enfin qu'il chante en espagnol, je trouve ça super cool. Et il a une variation de style, je trouve, dans ses musiques. C'est très intello, je trouve, ses sujets à chaque fois. Tu sens qu'il se creuse la tête, que c'est pas juste « Ah, je te kiffe, reste avec moi enfin, ». Voilà. Il y a une chanson qui m'avait marqué, c'était où il parlait du fait que les hommes sont des êtres de voyage et qu'on n'est pas fait pour rester à un seul endroit. Et qu'en fait, toi, tu es là et tu dis que tu viens de là, mais en fait, tu viens pas vraiment de là, tu viens d'ailleurs. Et tu t'es déplacé ici à travers les générations. Voilà.
Ok, donc ce qui t'inspire, c'est à la fois ce qu'il dit, ce qu'il fait en musique et son profil, donc artiste complet.
Exactement.
Merci beaucoup. On passe tout de suite à ton coup de cœur musical. On continue en musique avec ton coup de cœur musical, Antoine. Est-ce que tu peux nous annoncer, avant qu'on écoute le morceau, okay, le nom de l'artiste et le titre de la chanson?
Alors, le nom de l'artiste, c'est Marvin Gaye. Bon, je pense que beaucoup de gens connaissent. Et le morceau, peut-être que moins de personnes connaissent, c'est Mercy, Mercy Me, The Ecology, qui est en gros tiré de son meilleur album, si je me souviens bien. Et il parle d'un sujet qui n'était pas vraiment très entendu à l'époque, c'est l'écologie. Et du coup, il a fait une chanson sur ça. Et si vous écoutez les paroles, vous verrez que c'est assez sympa.
Mais on va les écouter tout de suite. Whoa. Oh, mercy, mercy me. Oh, things ain't what they used to be now. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north and south and east. Whoa, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be now. Oil wasted on the oceans and upon our seas. Fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. Our things ain't what they used to be now. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are alive. Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand it? Alors Antoine, qu'est-ce que tu aimes dans ce morceau ?
C'est un peu ce que je t'avais dit au début, c'est le fait qu'il traite de l'écologie de manière générale, puis ça fait partie d'un album que je trouve incroyable.
Et le côté très tranquille, j'ai envie de dire chill de cette musique, ça qui te fait l'aimer, qui te met dans un état particulier ?
Il y a une forme de mélancolie, je trouve. Il nous dit genre « things and what they used to be », par exemple, où il remarque une forme de changement. Dans la nature, mais je trouve que tu peux aussi utiliser ça un peu comme une métaphore pour ta propre vie, par exemple.
Bah oui, moi j'y voyais une séparation amoureuse, quoi, mais peut-être ouais, que j'ai projeté.
Non, mais voilà, exactement. Donc, moi j'ai ressenti pareil que toi, tu vois, quand j'ai écouté ça. Et c'est un peu une chanson qui me fait souvent pleurer. Donc voilà, c'est très émotionnel comme chanson.
Et tu l'écoutes quand ? Tu l'écoutes souvent, quand tu es plutôt mélancolique, pour que ça fasse un peu une espèce d'effet cathartique, ou à l'inverse, tu peux l'écouter quand tu es bien aussi ?
Ouais, vraiment, le premier truc que tu as dit, quoi. Parce que je l'écoute quasi jamais. Mais quand je l'écoute, c'est vraiment, ouais, je me sens pas bien pour un truc. Et j'ai l'impression que la chanson, elle est aussi triste et mélancolique. Et du coup, du fait que moi, je sois dans le même état, bah, ça résonne aussi et ça fait du bien. Voilà.
Et est-ce que le côté comme ça, un peu smooth de la musique, ça t'inspire dans toi, tes compositions ou t'es pas trop dans ce style-là ?
Ouais, alors c'est marrant. En fait, j'évolue vachement selon les personnes avec qui je joue. Donc, par exemple, avec mon ami Louis qui joue de la guitare, on est assez funk et c'est assez énergique. Mais avec, du coup, mon autre pote qui est plus synthé, etc., ouais, ça part un peu plus dans la vibe de ce qu'on a écouté. Donc, un truc un peu plus smooth, doux, progressif.
Parce qu'en fait, si on pense aussi à ton choix d'artiste, le point commun entre les deux voix, c'est qu'elles sont assez douces, je trouve.
Ouais, ouais.
Toi, t'as une voix douce quand tu chantes ou pas ?
Oh là, je sais pas, faudrait demander à d'autres gens.
Faudrait qu'on aille t'écouter.
Ouais.
Ok, on passe tout de suite à ton partage de texte. C'est le moment pour toi, Antoine, de nous lire un texte que tu as écrit. Est-ce que, avant de nous le lire, tu peux préciser le moment où il est né, ce texte ?
Donc c'est un texte assez émotionnel aussi. Je l'ai écrit pour la mort de mon grand-père. Donc c'était l'année dernière. Et en gros, on m'a demandé de lire quelque chose au funérailles. Et donc voilà, donc j'ai un peu écrit ça en genre 10-15 minutes, quoi. Parce que j'avais plein d'émotions, donc c'était pas un truc que je voulais forcément travailler. Et voilà, et donc la dernière fois que je l'ai lu, j'ai pas vraiment réussi à le lire, on va dire. Donc là, ça va être un peu un test de voir si j'arrive à le lire totalement.
Donc, merci beaucoup, on t'écoute.
Ces derniers jours ont été un peu étranges. Tout est allé au final assez vite. Papy est parti dans un coup de vent sans vraiment prévenir. On l'avait vu même pas une semaine avant tout ça, et il n'avait pas vraiment dit quoi que ce soit sur le sujet. Il n'avait pas laissé d'indice. Il est parti dans un coup de vent, et dans la hâte, il a oublié quelques bagages. Des bagages qu'il a laissés en nous, des souvenirs, des informations, un peu inutiles, comme le lien entre Molière et Pézenas, le lien entre ces monticules de pierre pas loin du lac du Salagou, qui servait de lavoir, et les systèmes de gérance de vignobles du Languedoc à l'époque de Napoléon III, ou alors le rôle de cette bactérie sur laquelle il avait travaillé pendant si longtemps et qu'il mentionnait tout le temps. C'est drôle, il a mentionné tout le temps cette bactérie et j'ai jamais vraiment retenu à quoi elle servait, comme si mon cerveau avait surtout retenu que papy me le rappellerait, sans que je lui demande inéluctablement un jour ou un autre. Et je pense qu'il trouvera une manière de me le rappeler pendant longtemps encore. Si la personne physique n'est plus là, les souvenirs le sont encore, je sais qu'ils resteront, même si la mémoire flanche avec le vieil âge, même si un souvenir en remplace parfois un autre, les écrits restent, les souvenirs des autres aussi, de la famille, des souvenirs qui s'entremêlent avec les nôtres. Dans un livre que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle « La porte des enfers », un père retrouve son fils dans le royaume des morts, et en se baladant avec lui dans ce lieu, il se rend compte que les défunts existent dans ce royaume grâce aux gens qui pensent encore à eux, à la surface. La famille, les proches, gardent leurs morts en lumière. Jusqu'à ce que petit à petit, plus personne ne pense à eux, à ces morts-là, et que la lumière s'éteigne pour qu'ils disparaissent à tout jamais. Alors si une vie perdure après la mort à travers les souvenirs des proches de la famille, j'aimerais me rappeler quelques moments qui pour moi représentaient papy. Le premier est celui d'aller chercher de l'eau au lac du Salagou, à la petite fontaine en bord de route, la fontaine avec l'eau au meilleur goût du monde, ça c'est sûr. C'est là que j'ai appris comment écouter. Écouter papy pendant ses longs monologues dont il avait le secret et qui nous amenait tout en histoire et longue dissertation jusqu'à la fontaine, pour ensuite nous ramener tout autant rempli en eau qu'en anecdote à la maison. Les dictées pendant l'été, pour maintenir le niveau en orthographe, c'est en partie avec papy que j'ai appris l'importance des études, des grandes études, celles qui amènent la vraie connaissance et le vrai travail. C'était toujours un plaisir de lui annoncer les bonnes notes, les bons classements, les acceptations dans telle école ou telle université réputée. C'était peut-être la chose qui l'intéressait et l'enthousiasmait le plus avec nous, et même si l'enjeu était parfois pas si important, on était toujours sûr d'avoir un vrai supporter derrière nous, quelqu'un qui serait fier et qui en connaîtrait davantage que nous sur les débouchés du métier, parce qu'il aurait évidemment fait toutes les recherches possibles et imaginables au préalable, avant chaque appel ou visite à Noël ou pendant l'été.
ces grillades au barbecue devant la maison, les côtelettes de veau ou ces longs attachés de saucisses qui, par leur arrivée, annonçaient le début du repas. Papy était toujours le chef de la grillade. Une maîtrise qui, au fil des années, paraissait presque à mes yeux comme un art et qui lui donnait un rôle de grand cuisinier lors des repas de famille. Ce qui ne peut pas, cela dit, occulter ces salades de fraises dont j'aurais pu manger des kilos si mon estomac me l'avait un jour permis. Tous ces ateliers de découpe de fruits et légumes qui l'amenaient à passer des heures dans la cuisine avec son petit couteau et qui laissaient en moi une envie d'en peindre un tableau. L'homme à l'opinel. Je trouve beaucoup de tableaux réalistes du 19e siècle, de vieux monsieur qui découpent divers légumes, des fois des patates, des fois des pommes, et qui capturent un peu ce sentiment-là que je ressentais quand je l'observais assis dans la cuisine en étant petit. C'est assis sur cette même chaise dans la cuisine qu'il est parti. Son bureau et sa bibliothèque. Un lieu de haute voltige intellectuelle. Là où devaient sûrement être prises les grandes décisions du monde, j'ai toujours été intimidé étant petit par cet endroit qui semblait contenir toutes les connaissances que l'univers avait à offrir et par cet érudit de papy qui en était le gardien. Un lieu qui au final, à l'époque de mon enfance, devait être surtout utilisé pour payer les impôts et faire des sudoku, mais ça n'a peut-être pas plus grande importance. Et pour finir, peut-être l'image la plus emblématique de mon grand-père, celle d'un homme repu à la fin du repas, assis sur son canapé à la droite de la télé, juste derrière la cheminée, avec la grande lampe de lecture et les piles de télé 7 jours entassées sur une petite table de chevet à sa gauche. Là, il lit un livre, le journal, il fait des sudoku, des mots croisés, où il dort tout simplement. Il dort avec ses lunettes qui pendent sur sa poitrine, et il est bien. Le canapé avait fini par devenir le moule parfait de son dos. Je pense qu'il va en garder la forme pendant encore longtemps. Je n'imagine pas papy autrement dans mon esprit. Je ne le vois que sur ce canapé. Alors il n'y a peut-être nulle part où aller après la mort. Peut-être que l'on ne survit qu'à travers les souvenirs des autres, comme je disais plus tôt. Si c'est le cas, j'espère que le papy que je garde en moi, dans ma tête, est bien confortable dans son canapé, avec ses lunettes à moitié tombées sur le nez, en train de faire la misère à un problème de sudoku niveau 5. Je trouve ça très bien comme dernière image de toi.
Merci beaucoup Antoine de t'être livré et d'avoir rendu hommage à ton papy qui je pense fait écho à plein de papys dans ce monde. On va maintenant passer à une œuvre qui est phare pour toi, qui est forte. Alors toi c'est un petit peu particulier cette fois-ci parce qu'il me semble que tu as choisi plutôt un mouvement artistique. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ?
Ouais, c'est le mouvement du sublime. Donc c'est visuel, donc c'est des peintures, enfin, principalement je crois. Donc ça va être un peu compliqué d'en parler à la radio, mais on peut essayer. En gros, le mouvement du sublime, c'est un des mouvements romantiques du 19e siècle, je crois, qui en gros essaie de dépeindre à quel point l'homme est tout petit par rapport à la nature. Donc il y a plein d'œuvres où tu as des grands, grands paysages, mais ce n'est pas juste des grands, grands paysages, parce que tu as aussi des petits personnages, des petits humains qui sont perdus dans ce grand tout. L'un des plus connus qui pouvait parler aux gens, donc le radeau de la Méduse, c'est donc des naufragés et tu les vois perdus dans la mer agitée. Il y en a qui sont morts, t'en vois certains qui désespèrent. Je crois que le tableau il est un peu séparé en deux. T'as ceux qui désespèrent d'un côté avec celui qui est mort et de l'autre côté t'as ceux qui ont aperçu qu'il y a un bateau au loin et donc ils commencent à lui faire signe et tu vois le bateau. Enfin, tu le vois pas s'approcher, mais tu t'imagines qu'il est en train de s'approcher, quoi. Donc,
tu te racontes une histoire à partir du tableau que tu vois.
Voilà, c'est ça. Et je le trouve super beau, ce tableau. Et tout le mouvement, de manière générale, je trouve qu'il y a un côté très grandiose.
Est-ce que tu peux peut-être nous raconter, si tu t'en souviens, comment tu as découvert tous ces tableaux qui appartiennent à ce mouvement-là ?
C'était ma prof d'anglais quand j'étais au lycée. En gros, j'ai fait une section internationale et on parlait beaucoup du romantique, de manière générale. Donc, on avait étudié des œuvres de Dorian Gray, par exemple, Alexander Pope, Wuthering Heights, les Vents Hurlants, etc. C'est un peu, ça fait partie du sublime, je crois. Enfin, du moins du romantique, je vais pas dire des bêtises. Du coup, le sublime a fait partie de nos études. Elle nous avait montré des tableaux. Et je m'étais dit, mais c'est ça! Parce que j'avais déjà vu des tableaux avant qui m'avaient marqué, qui étaient du sublime. Mais je ne savais pas que c'était le sublime. Et donc, maintenant, j'ai un mot pour définir ces tableaux-là.
On a beaucoup parlé, je trouve, du lien entre l'homme et la nature. C'est quelque chose qui t'habite, j'ai l'impression.
Ouais, un peu.
On passe maintenant à la dernière étape, la bribe de phrase.
Hey, listen. You too crazy, nigga. You better stop now. You better stop. Let me tell you something.
Alors, je rappelle rapidement le principe de la bribe de phrase. Je t'ai demandé d'être à l'écoute, ou peut-être que tu l'avais déjà été dans ta vie, à l'écoute d'une phrase comme ça dans la rue, une conversation que tu attrapes au vol. Et il y a un petit morceau qui est assez marrant, ou en tout cas qui t'a marqué pour une raison ou pour une autre. Est-ce que tu peux nous contextualiser ce moment, un peu nous raconter l'anecdote, et ensuite nous dire cette fameuse phrase?
Alors, moi, c'est pas trop marrant, du coup.
Moi, c'est pas grave.
Mais bon, c'est un peu le thème. J'ai l'impression déjà le truc avec mon grand-père. Mais c'est arrivé ultra récemment, c'était jeudi. En gros, je fais du jujitsu. Et donc, j'ai un sensei, j'ai un prof qui raconte un peu sa vie. Et il nous a parlé du fait qu'il n'arrivait pas à avoir ses gosses, etc. Et il essaye toujours un peu de... Je trouve qu'il parle beaucoup. Et en fait, tu te rends compte qu'il ne te parle pas vraiment à toi. Genre, il se parle plus à lui. Et il essaye de se rassurer, à se dire des trucs que genre, ouais, non, finalement, j'ai fait les bons choix dans ma vie, etc. Et du coup, il a dit quelques trucs sur sa relation avec ses enfants. Et du coup, il a dit, c'est dur, les gens pensent que ça sera là tout le temps, mais c'est tellement court comme période dans ta vie. Tes gosses, ça définira le reste de la leur, et tu t'en rends pas forcément compte. Mes cours le soir, le week-end, les compètes le dimanche, mes gamins, quand ils rentraient, on leur avait déjà fait prendre une douche, mis le pyjama, lu une histoire et brossé les dents. Parfois, il dormait déjà. Ces moments-là, ça n'arrive qu'une fois. Alors, est-ce que ça valait le coup?
Eh ben, une bribe de phrase assez longue.
Ouais,
ça t'a marqué, visiblement.
Ouais. Bah, je l'ai un peu amélioré, mais en gros, c'est ce qu'il disait. Et après, du coup, il se rassurait en me disant, mais oui, ça valait le coup. J'ai fait plein de trucs. Je suis allé au Japon. Je trouve que ça abordait un peu le lien du travail et de la vie. Mais en général, comment tu définis ta vie? Comment tu définis que ta vie est un succès? Est-ce que ton travail devrait définir ce succès-là? C'est quoi les moments importants?
Oui, il y a la partie éphémère qui est au centre, en tout cas.
Mm-hmm.
Merci beaucoup, Antoine, d'avoir été la voix enchantée qui clôt la saison 3.
Ah ouais?
Quel honneur! On va se retrouver par chance et par bonheur l'année prochaine pour une saison 4. Je remercie aussi Rosalie Bern à la réalisation qui m'accompagne depuis quelques années maintenant. À très bientôt sur les ondes de Radio Campus Paris.